Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Vous connaissez bien sûr le roi Charles VII, celui que l'on surnommait le pauvre petit roi de Bourges. Ce roi que Jeanne d'Arc fit sacrer à Reims le 17 juillet 1429, après qu'elle eut bouté les Anglois hors de France. Le successeur de ce roi, Charles VII, sera Louis XI, auquel une sinistre réputation colle à la peau, quoiqu'il fût l'un des plus grands souverains de notre histoire. Eh bien, Charles VII et Louis XI offrent l'exemple le plus édifiant de mésentente père-fils de toute l'histoire de la monarchie française. C'est cette histoire familiale compliquée que je vais vous raconter dans ce nouvel épisode, cette fois-ci en trois parties. Deuxième partie, du Dauphiné à la Bourgogne. Dans son livre Aventurier et Favorite, l'historien Philippe Erlanger écrit
« L'histoire des 9 années passées en Dauphiné est un résumé de ce que sera le règne de Louis XI. Rien ne manque, ni les réformes, ni les féodaux domptés, ni les évêques contraints à l'hommage, ni la création de la poste, ni l'ouverture des routes et des foires, ni l'impulsion donnée au commerce et à l'industrie, ni la fondation d'une université, celle de Valence, ni les lettres de noblesse répandues à foison. »
Pendant ces deux premières années dauphinoises, père et fils, qui ne sont pas mécontents d'être débarrassés l'un de l'autre, s'apaisent quelque peu et tentent de donner à leur relation à distance les apparences d'une certaine cordialité. On se fait de petits cadeaux. En janvier 1449, Louis offre même à son père un léopard. Mais en janvier 1451, l'affaire Jacques Cœur va venir tout gâcher. Jacques Cœur, c'est cet homme puissant et richissime que l'on va accuser d'avoir détourné de l'argent. Il faut rappeler qu'Agnès Sorel est morte dans des conditions étranges un an auparavant et que Jacques Cœur, mais aussi Louis, ont été suspectés de l'avoir empoisonné. Que Louis, depuis sa lointaine province, prenne le parti du grand argentier qui vient d'être mis en accusation, voilà qui est un motif d'irritation supplémentaire pour Charles VII. Sur ces entrefaits, le dauphin va précipiter la brouille en demandant à son père l'autorisation d'épouser la fille du duc de Savoie. La Savoie est toute proche du Dauphiné. Une alliance avec elle ferait bien les affaires de Louis et celle d'une province coincée entre les cantons suisses et le puissant roi de France. Louis adresse lettre sur lettre, émissaire sur émissaire à son père en vain. Charles fait la sourde oreille. Il ne veut pas d'une alliance entre Savoie et Dauphiné à la frontière de son propre royaume. Et puis n'a-t-il pas déjà proposé à son trublion de fils une épouse portugaise ou anglaise ? Il finit par lui faire savoir qu'il est formellement opposé à cette alliance qu'il juge inopportune. Puisque c'est comme ça, Louis se mariera sans son autorisation. Or, une telle chose est non seulement inadmissible, mais absolument impensable. Une fois de plus, Louis va beaucoup trop loin. Tentons de nous représenter le tour tragicomique que prennent les événements. Un père, roi de France, rendu furieux par le mariage de son fils, décidé sans son accord, n'est pas convié à la noce et envoie sur place l'un de ses fonctionnaires, un héros d'armes, chargé d'empêcher coûte que coûte la cérémonie qui doit avoir lieu à Grenoble le 9 mars 1451. L'émissaire arrive un jour trop tard. Cette alliance injurieuse pour le roi de France est donc nouée, à défaut d'être consommée. Il faut signaler que le marié a 28 ans et que la mariée, Charlotte de Savoie, n'en a que 9. Pour se venger de cet affront, Charles VII, comme il l'avait fait à l'époque de la Praguerie, supprime la pension de Louis, confisque les divers territoires qu'il possédait en France et fait pression sur le duc de Savoie pour qu'il prenne ses distances. Le roi est tellement furieux de voir se constituer à ses frontières une alliance hostile qu'il envisage, dit-on, de déshériter Louis au profit de Charles, son frère cadet. Louis sent passer le vent du boulet. Dans les mois qui suivent son mariage, il adresse à son père plusieurs lettres obséquieuses dans lesquelles il se déclare prêt à lui présenter des excuses circonstanciées, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de faire circuler au même moment des libelles accusant Charles VII d'avoir des mœurs dissolues. Entre père et fils, on est constamment dans un double jeu. De toute façon, il est trop tard. Charles a déjà entrepris d'expédier des troupes en Dauphiné et en Savoie. Le 27 octobre 1452, le duc de Savoie signe un traité par lequel il se met sous la protection du roi de France et se désolidarise de Louis. Décidément, voilà un jeune homme qui a vraiment du mal à établir des relations harmonieuses avec ses beaux-parents. Sous son impulsion, Grenoble est devenu un foyer d'intrigues et de séditions, le point de ralliement de tous les adversaires de Charles VII. Il n'est pas un ennemi juré de son père dont Louis ne se soit fait l'allié. Il est l'ami d'Armagnac, l'allié des ducs de Bretagne et de Bourgogne. Il s'acoquine contre son père au fameux Sforza de Milan, un homme qu'au contraire du sien, il aimera sincèrement comme un père. Charles VII réagit en publiant une proclamation par laquelle il désavoue publiquement les folles entreprises de son fils. Au cours des années 53 et 54, il contraint la Savoie et Milan à renoncer à tout contact avec Louis. En août 55, les grandes villes reçoivent une circulaire énumérant les 14 cas qui peuvent entraîner la déshérence d'un fils rebelle. La conduite de Louis mériterait 10 fois cette sanction. Au début de l'été 56, poussé par ses conseillers Dunois, Chabannes et Brézé, Charles se décide à écraser ce dangereux foyer d'agitation et de complot attisé par un fils aîné qui pourrait bien embraser le royaume tout entier. Il fait citer Louis sous l'accusation de rébellion, s'établit lui-même en Bourbonnais et envoie sur le Rhône une armée qui, après s'être emparée de Lyon, s'apprête à franchir la frontière du Dauphiné. Cette fois, papa se déplace en personne pour administrer une correction à son fiston. Louis ordonne une levée générale des hommes de 18 à 60 ans, mais il n'est pas de taille à lutter contre l'armée de son père. Soudain pris de panique, il court les sanctuaires, s'use les genoux à force de prier, adresse au roi d'humbles suppliques, mais cette fois Charles exige une soumission totale. Louis est mort de peur. Il est persuadé que s'il se fait prendre, son père le fera coudre dans un sac et jeter à l'eau. Alors il fuit, bride abattue, mais pas n'importe où. Il va chercher asile auprès d'un prince qui était l'homme que son père et les amis de son père haïssaient le plus dans l'univers entier. Cet homme, c'est Philippe le Bon, duc de Bourgogne, le plus riche des souverains de la chrétienté, qui lui attribue un château, Genappe, en Brabant, au risque de créer une crise diplomatique avec son suzerain, le roi de France. Entre-temps, Charles s'est emparé du Dauphiné et se faisant comme un père confisquerait son jouet préféré à un fils turbulent, il prive Louis du royaume modeste mais exemplaire qu'il avait contribué à développer. Sur place, l'oiseau s'étant envolé,
Chabannes n'aura qu'une noix creuse, le Dauphiné sans le dauphin.
Même s'il a maintenant 33 ans, Louis n'est qu'un fugueur honteux et confus qui vient d'être corrigé par son papa. Le dauphin Louis, héritier en puissance de la couronne de France, est à présent réfugié chez le pire ennemi du roi de France. Peut-on imaginer situation familiale plus inextricable et plus désagréable ? Ainsi qu'il est en droit de le faire en tant que suzerain, Charles exige solennellement de Philippe le Bon qu'il livre le fugitif. En vrai faucheton, celui-ci refuse bien sûr, au nom du respect qu'il doit au fils de son roi, ce qui inspire à Charles cette considération désabusée mais prophétique.
Mon cousin de Bourgogne nourrit là un renard qui mangera ses poules.
Il voit juste, Louis qui pour l'heure cherche à nuire à son père par tous les moyens, n'aura de cesse, une fois roi, de parvenir à annexer le prospère duché de Bourgogne, mordant ainsi sans état d'âme la main qu'il avait nourrie naguère. Mais pour l'heure, les troupes françaises se massent en Picardie, tandis que de son côté, le duc de Bourgogne bat le rappel de ses vassaux. Va-t-on se battre ? Louis n'attend que cela, bien sûr. Mais en fin de compte, chaque camp aurait bien trop à perdre dans un tel affrontement. Un statu quo s'établit, au grand dam du dauphin qui rêvait de voir les troupes de son père se faire ratatiner.
Il se délectait à un travail de rongeur qui sapait à la fois sa maison et celle où il avait reçu asile.
Laissons Louis livré à l'impécuniosité et à l'ennui de ses mornes années d'exil, rançon de sa trahison. Tapi dans son château bourguignon, Il attend patiemment son heure. Et son heure finit par arriver. Début juillet 1461, une dent mal arrachée cause à Charles un grave abcès qui va rapidement dégénérer en mastoïdite, une complication de l'otite sous forme d'infection purulente. La mâchoire à moitié paralysée, la gorge obstruée par le pus, le malheureux roi souffre mort et passion. À la douleur physique s'ajoute bientôt la faim, car étant absolument persuadé que l'on veut l'empoisonner, il refuse obstinément de s'alimenter. Il va donc endurer une longue et très douloureuse agonie dans les souffrances conjuguées de l'infection et de l'inanition. Dans la matinée du mercredi 22 juillet 1461, meurt à 59 ans au château de Meun-sur-Yèvre, celui qui fut à la fois le pauvre petit roi de Bourges et Charles le Victorieux. Au moment du décès de son père, Louis se trouve toujours en Bourgogne. La nouvelle lui parvient 3 jours plus tard. On a raconté qu'il ne put s'empêcher de laisser éclater sa joie, ce qui scandalisa les Bourguignons. Vrai ou faux, ce qui est en tout cas avéré, c'est qu'après avoir fait célébrer pour son père une messe de requiem, il partit à la chasse l'après-midi même. Après tout, Charles ne venait-il pas lui aussi de la chasse, lorsque 25 ans auparavant il avait fait acte de présence à son premier mariage ? Eh bien, Louis ne serait pas plus royaliste que le roi et se contenterait à son tour de faire acte de présence au service funèbre de son père. Dans la famille service minimum, je demande le père et le fils, Charles VII et Louis XI. Dès le lendemain, Louis se met en chemin pour la France. Il n'assistera pas aux obsèques de son père, mais fera assurer un second office funèbre en son hommage, juste avant son propre couronnement, le 15 août 1461. Voilà, l'ennemi juré de Louis XI vient de mourir. Impossible de ne pas céder à une certaine tristesse, en songeant à ce père et ce fils qui jamais ne parvinrent à s'entendre, qui vécurent chacun dans son coin 14 années durant et ne se revirent jamais. L'ombrageux dauphin devient à 38 ans le très chrétien roi de France, Louis le 11e. Sa première décision consiste à destituer les hauts dignitaires qui ont servi son père. Il s'entoure ensuite de ministres choisis dans la bourgeoisie, triple également les impôts, mais va encourager le commerce et l'industrie, créer des routes, multiplier les foires, annexer des territoires qui créeront la France moderne. Il va étouffer dans l'œuf la rébellion des cités qui croient pouvoir protester contre la pression fiscale à laquelle leur nouveau roi entend bien les soumettre. Dans ces conditions, les postulants à la fonction de nouveau pire ennemi de Louis XI ne vont pas manquer. À commencer par son petit frère Charles, duc de Berry, auquel il confisquera la Normandie. Charles, homme de paille des seigneurs mécontents, prendra la tête d'une ligue du bien public opposé aux décisions de son frère aîné, avec un certain duc de Charolais, mieux connu sous le nom de Charles le Téméraire. Louis eut-il vent des dernières paroles de son père ? Elles avaient été terribles.
« Je remets à Dieu la vengeance de ma mort. »
En disant cela, n'exhortait-il pas Dieu à le venger de son propre fils, comme si Dieu avait pour vocation d'exaucer des dernières volontés aussi peu conformes à sa parole ? Erlanger écrit.
Louis se serait-il incliné devant un père dont l'âme eût été à la hauteur de sa fortune ? Ce n'est pas impossible. Dès l'origine, le mépris a eu dans ses révoltes une part égale à celle de l'ambition.
Restait une grande question. Après avoir été lui-même le fils ingrat, impatient et comploteur d'un père médiocre, comment allait se comporter Louis XI quand lui-même deviendrait père de famille ? Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre et la réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la 3e partie de mon récit « Au cœur de l'histoire » consacré à Louis XI.